Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mission Gravelman, épisode 8 et épisode du podcast 135. Ici Richard Delhomme pour un épisode totalement exceptionnel. Et oui, aujourd'hui je fais les deux en même temps car c'est vraiment un épisode exceptionnel. C'est bientôt Noël, alors tu sais quoi, je vais te donner le secret de la réussite sur les épreuves longue distance. Et après t'avoir révélé ce secret, j'accueillerai mon invité du jour, Laurent Boursette, multiple vainqueur entre autres de plusieurs Biking Man. Et ensemble, nous allons reprendre point par point les ingrédients indispensables de la réussite sur les longues distances, route ou tout terrain. Alors le secret de la réussite, c'est très très simple, regarde bien et surtout, écoute. Et attention, ça n'a rien à voir avec la performance, avec la distance, avec tous ces trucs-là. La notion de réussite, c'est un truc très très personnel, même en finissant bon dernier. Alors assieds-toi, mets un slip propre et regarde bien. Pour réussir une épreuve longue distance, tu dois atteindre plusieurs objectifs. Arriver au bout dans un état de relative fraîcheur, donc pas complètement défoncé et pas en hypototale en train de vomir partout sur tes pompes. Ne pas tomber et ne rien casser. Et surtout ne pas t'en prendre aux organisateurs parce que tu auras foiré quelque chose. C'est OK pour toi ? Le plus important, tu imagines une ligne horizontale. OK ? Et bien cette ligne horizontale, elle symbolise à la fois ton épreuve par sa distance, avec un début et une fin, mais également ton allure, la gestion de ton allure et la gestion de ton état émotionnel. Et on pourrait aussi ajouter des petits points pour les moments où tu manges. J'insiste sur un point, l'allure et la distance sont des trucs extrêmement personnels. Ça peut être 75 km comme ça peut être 1200, la logique reste exactement la même. Donc tu as ta ligne horizontale avec un début et une fin. Et tu dois adopter le rythme le plus régulier possible. Tu dois lisser ton effort le plus possible pour être toujours en endurance. Ce qui signifie que tu vas éviter de monter les côtes à fond. Tu vas éviter de partir comme un malade. Tu vas éviter de rouler comme une bourrique pour finalement exploser au bout de 4 heures. Tu restes toujours en deçà de tes capacités. La bonne allure, c'est la tienne. Celle que tu peux tenir pendant des heures sans avoir le besoin de t'arrêter. Et également, maintenir une allure stable, ça veut dire s'arrêter le moins possible, donc éviter ce genre de truc où tu pars, tu t'arrêtes, tu repars, tu fais une photo, tu fais un selfie, tu repars, tu t'arrêtes manger, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu t'arrêtes faire pipi, tu t'arrêtes faire un selfie, tu t'arrêtes faire une photo, tu t'arrêtes chiller avec tes potes. Toujours régulier. Tu roules, toujours en deçà, mais tu roules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu manges en roulant. Bon, tu fais pas pipi en roulant, sauf si tu as vraiment l'habitude et qu'il fait chaud. En hiver, c'est beaucoup moins facile, mais toujours tu roules, même pas vite. Mais tu roules. Et dis-toi bien un truc, 3 minutes d'arrêt à 20 km/h, c'est 1 km. Alors tu multiplies ça par de multiples arrêts et tu fais un petit peu le compte à la fin. Surtout qu'à chaque arrêt, il faut relancer, le corps se refroidit, les muscles se refroidissent et à chaque fois, il faut relancer la machine, il faut repartir. À ton avis, pourquoi une voiture consomme beaucoup plus en ville à 50 km/h que sur l'autoroute à 130 ? Et pour éviter tous ces arrêts, notamment le besoin de s'arrêter, braquer la boulangerie, casser la boulangerie, bah tu manges le plus régulièrement possible et dès le début. Comme ça, tu alimentes toujours la chaudière, tu as toujours quelque chose et tu manges tout le temps et tu es toujours stable. Tu emmènes tes propres trucs, les trucs que tu aimes bien, les trucs que tu as testés et qui fonctionnent bien sur toi. Et surtout, tu n'écoutes jamais les organisateurs. S'ils te disent pas de problème, le parcours est roulant et vous pourrez vous ravitailler à l'aise. Tu peux traduire par « vous allez pousser dans la caillasse et les épines et en plus vous allez crever la dalle ». Également, tu évites les moments d'euphorie et tu laisses passer les moments un petit peu moins drôles. Inévitablement, il y en aura, tu vas te sentir bien, à un moment donné, tu vas te sentir moins bien. Pareil que ton allure, tu essayes d'adopter un état émotionnel le plus stable possible. Ça va bien ? Très bien. Tu continues sur ton allure. Ça va mal ? Tu laisses passer, ça finira par passer à un moment donné. Une alimentation régulière, une allure régulière et un mental serein sont les plus sûrs moyens d'arriver au bout en bon état. Et en cas de souci, pas de problème. Tu restes calme, tu gardes ton calme et tu gères. De toute façon, ce qui va t'arriver, c'est généralement un problème mécanique, mais tu l'as déjà testé à l'entraînement, tu l'as déjà éprouvé, donc pas de problème. Tu l'as déjà vécu, tu restes cool et tu gères. Pour finir, tu te donnes de petits objectifs intermédiaires. Tu ne penses pas à globalité. Tu penses 50 km, 100 km, 150, 200, etc. selon la distance. Si tu penses global, tu vas te décourager. Tu vas te dire, ah, il reste 200, il reste 300, c'est beaucoup trop. Tu te donnes un micro-objectif, j'arrive aux 50 en bon état, j'arrive aux 100 en bon état, j'arrive aux 150 en bon état. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es à une certaine distance et qu'il reste pratiquement rien à faire. Et si tu fais ça, crois-moi, tu arriveras au bout, à l'aise et satisfait d'avoir maîtrisé ton truc de bout en bout, quel que soit le résultat final. Parce que finalement, nous ne sommes pas égaux face à la nature, face aux capacités physiques, certains ou certaines vont plus vite que d'autres, c'est comme ça. Par contre, la satisfaction de maîtriser de bout en bout et de savoir ce que l'on fait surpasse tout le reste. Et là, tu vois, tu as une section commentaires. Tu peux l'utiliser et si tu veux, je te raconte toutes les épreuves où j'ai fini complètement décalqué, où je suis tombé, où j'ai fini en hypototale, en vomissant, en pleurant. Toutes les galères qui me sont arrivées, si tu veux, je te les raconte. Je reprends chaque épreuve une après l'autre et je te raconte tout ce qui m'est arrivé et tu vas te fendre la gueule. T'as envie de savoir ça ? Tu me le mets en commentaire. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail de tout ça avec Laurent Boursette. Bon alors Laurent, nous sommes...
Bonjour Richard.
Oui, on peut le faire comme... Bonjour Laurent.
Bonjour Richard.
Nous sommes réunis ici, mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour parler d'entraînement avec Laurent Boursette, qui pour l'occasion a mis son t-shirt noir avec la marque ici, et on dirait un prêtre, ou presque un apôtre de l'entraînement. Donc c'est très très bien joué. Je ne sais pas si ouais, c'est fait exprès, mais en tout cas...
Un peu plus bas, tu vois, il y a Finisher Biking Man.
Ah non, mais par contre, Finisher, ça ne suffit pas, parce que pour toi, il faudrait des t-shirts Winner.
Parce que, bon, non, ça va.
Mais ce qui serait bien aussi sur certaines épreuves, c'est parce que tu te rappelles l'épisode avec Ludo Collet, qui me racontait que certains veulent le t-shirt Finisher, même quand ils ne finissent pas. Ça serait bien de faire aussi un t-shirt Abandon, pour ceux qui bâchent, pour bien leur rappeler.
Ouais.
Ça serait très très drôle.
Pour leur mettre les boules, ouais.
Ouais, bah ça se fait sur la Barclay avec la petite chanson, je sais plus comment est le nom de ce classique américain de l'armée, mais il joue ça. Donc voilà. Bon alors Laurent, on va commencer par poser un petit peu le débat, par poser les choses. C'est ouais. Que tu te fais entre guillemets harceler ou en tout cas beaucoup de monde te contacte suite à tes nombreux succès pour avoir des conseils sur la préparation d'épreuves longue distance. Et comme malheureusement t'es perfectionniste et que tu essayes de répondre à tout le monde du mieux possible et en rentrant dans les détails, en tenant compte des spécificités de chacun, et que tu es beaucoup sollicité, tu peux pas répondre à tout le monde. Donc aujourd'hui, on s'est dit... on va faire un truc ensemble pour essayer de donner un amorce de réponse quasi, pas définitive, mais en tout cas vraiment des éléments communs à tout le monde. Et le premier truc à noter, c'est qu'il ne faut pas faire comme toi, parce que tu n'es pas un exemple. C'est ça qu'il faut vraiment noter.
Ouais, voilà. C'est ça là, qui est important et c'est ça qui fait parfois...
Là, tu peux répondre.
Ouais, je suis là.
Ouais, vas-y.
Ouais, c'est ça qui est important et c'est ça qui fait que parfois pour moi c'est un petit peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce que j'ai pas une quand je participe à une épreuve, que ce soit un Biking Man, une Race Across France ou d'autres épreuves, je suis dans l'objectif d'être devant, de faire la course pour gagner ou en tout cas pour faire une place, faire un chrono et être devant. Et donc j'ai une prise de risque qui est quand même assez importante pour être devant maintenant. Actuellement, avec l'explosion un peu de ce sport et avec un niveau moyen qui remonte, on est obligé de prendre des risques. Donc ça peut être des risques en termes de stratégie, en termes de nourriture, en termes d'équipement. En termes de rythme également, et puis aussi en termes de sommeil, par exemple. Hein, ça fait partie de la prise de risque qu'on peut choisir de faire sur ce type d'épreuve. Et cette prise de risque, elle n'est pas nécessaire à prendre pour quelqu'un qui va simplement avoir comme objectif de finir la course, d'aller au bout, de se faire plaisir et de faire une épreuve dans de bonnes conditions. Donc évidemment, les conseils que je peux donner et que moi je vais utiliser ne sont pas forcément ceux qui sont adaptés à un débutant. Après, donc concernant les débutants, ouais.
Ouais, non, vas-y, je reprendrai après, vas-y, je te laisse.
Tu parlais, Richard ?
Non, ouais, d'accord. Je te laisse poursuivre, vas-y.
Ouais. Donc concernant un débutant, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on attaque une première épreuve d'ultra-distance, l'objectif étant de finir, il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pas trop souffrir, pas trop se faire mal, pas avoir de difficultés en termes d'équipement, de position sur le vélo, enfin vraiment viser le confort et la sécurité avant tout. C'est ce qui va permettre d'aller au bout.
Ouais. Ah bah, du coup, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc si, oui. Voilà, c'est que toi, notamment en termes d'alimentation, tu as une spécificité sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais c'est aussi, et ça on va appuyer vraiment là-dessus, c'est le fruit de nombreuses expérimentations et de nombreux tests pour trouver ce qui fonctionne vraiment bien sur toi. Et ça, c'est donc on en parlera, mais cette manière-là fonctionne pour toi. Mais ce qui est vraiment important de souligner, c'est l'importance du test et de l'expérimentation pour trouver ce qui fonctionne et ne pas attendre de recettes magiques, de se dire Laurent Boursette, il fait comme ça, eh ben, je vais faire pareil. Laurent Boursette, il ne dort pas, je vais faire pareil. Machin, il fait comme si, j'ai vu que machin fait comme ça, bah non, parce que c'est quand même le meilleur moyen de se planter, parce que nous sommes tous différents, toutes et tous différents, et ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour les autres, c'est quasiment sûr. Donc on va prendre le premier truc, c'est combien de kilomètres par an. On s'est appelé la semaine dernière, pour préciser, pour être vraiment clair sur tout, on s'est appelé la semaine dernière, on a repris toutes les questions que tu as le plus régulièrement, et on va commencer par le volume annuel, ou en tout cas le volume nécessaire pour préparer une épreuve. Donc on va prendre l'exemple du Biking Man, mais on va pouvoir décliner cet exemple vers d'autres épreuves plus longues ou plus courtes. Donc le volume annuel ou la durée minimale de préparation. Tu m'as entendu?
Oui, alors évidemment, c'est difficile de répondre à cette question de façon... Oui, je t'ai entendu.
Oui, ok.
C'est difficile de répondre à cette question de façon très formatée parce que on fait tous du vélo dans des régions différentes. Et puis, il y a un historique aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai commencé le vélo à 15 ans. Donc, ça fait un peu plus de 35 ans maintenant. Donc, forcément, cet historique fait que j'aurais pas besoin du même nombre de kilomètres que quelqu'un qui a jamais fait de vélo, voire qui a jamais fait de sport d'endurance. C'est évidemment à prendre en compte. Et puis, il y a également l'aspect de l'endroit où on fait du vélo. Moi, je fais du vélo dans l'Isère et dans les Hautes-Alpes, dans des endroits où il y a beaucoup de côtes, où les kilomètres sont plutôt des kilomètres difficiles, également avec des températures et des conditions météorologiques qui sont assez compliquées. Donc c'est évidemment plus dur de faire du vélo dans ces conditions-là qu'en pleine, avec des températures plutôt agréables et des parcours plutôt plats. Si on devait donner un ordre d'idée, je dirais que pour faire une course de 1000 kilomètres, il faut à la fois avoir fait du vélo pendant 3-4 mois précédant l'épreuve, de façon assez régulière, et également avoir fait des séances d'entraînement qui sont jointes sur une semaine. On va dire qu'il faut au minimum rouler 2 à 3 fois par semaine. Ça me paraît compliqué de s'engager sur une épreuve de longue distance en ne roulant que le dimanche, par exemple. C'est trop compliqué. Donc si je devais donner un ordre d'idée en termes de kilométrage, je dirais 4-5 000 km avant de participer à une épreuve de 1000 km. Ça me semble être le minimum à faire pour arriver dans des conditions à peu près potables. Et puis après, il faut tenir compte du relief de l'épreuve, par exemple. Un Biking Man, c'est 1000 km, mais c'est systématiquement 1000 km très difficiles. Les meilleurs vont faire ça en 48 heures, et ceux qui vont le moins vite et qui y vont pour finir vont le faire en 5 jours, puisque c'est le délai maximum. Donc ça veut dire que 1000 km divisé par 5 jours, ça veut dire qu'il va falloir faire à peu près 200 km par jour. Donc, dans l'idéal, quelqu'un qui va s'entraîner pendant les 3-4 mois qui précèdent l'épreuve, il va aussi falloir qu'il fasse des séances dont certaines devront faire 200 km pour être capable de faire la durée qu'il va falloir accumuler chaque jour. Et 200 km, ça oblige à rouler au moins une dizaine d'heures d'affilée. Et c'est important parce que c'est seulement au bout d'une dizaine d'heures d'effort qu'on va être vraiment dans la partie endurance de notre sport. Un cycliste qui va être entraîné, qui va faire des sorties de 2-3 heures, il va pouvoir se faire mal aux jambes, il va pouvoir être cardiaquement dans l'effort, il va avoir l'impression musculairement d'avoir forcé, voire d'avoir les muscles vraiment durs, voire des crampes, mais il ne sera pas vraiment dans l'effort d'ultra qu'on connaît nous. On voit très bien, nous, quand on a des cyclistes réguliers, qui peuvent faire des courses, même les week-ends, de façon assez régulière, quand ils arrivent sur de l'ultra, c'est au moment où ils arrivent à une dizaine d'heures d'effort qu'ils commencent à ressentir les douleurs particulières de notre sport. C'est seulement au bout d'une dizaine d'heures, par exemple, que les réserves de glycogène seront complètement épuisées, qu'on va passer dans une phase où il va falloir commencer à manger de façon importante, qu'il va falloir digérer cette alimentation. C'est aussi à partir de ce moment-là que le cœur aura du mal à maintenir un rythme cardiaque assez élevé et qu'on va vraiment commencer à se rapprocher de l'endurance. C'est à ce moment-là que les premières crampes peuvent apparaître. Enfin, c'est vraiment au bout d'une dizaine d'heures qu'on va commencer à ressentir les spécificités de cette activité. Donc, je dirais qu'il faut au minimum faire des sorties de 200 km, éventuellement un peu moins si on est en montagne et qu'on a des parcours vraiment difficiles. Et le deuxième aspect, donc ensuite après la longueur des séances, ça va être la difficulté des séances, puisque si on fait un biking man, on va être dans des conditions montagneuses et souvent difficiles en termes de météorologie. Ça peut être l'extrême chaleur si on est sur Oman, par exemple, où il va faire 45 degrés au plus chaud. Et puis ça peut être le froid parfois, ou quand on va être en pleine montagne sur un biking man en Rhône-Alpes, par exemple, on va avoir des températures qui vont être très proche de 0 degré dans les descentes de col. Également, on va rouler la nuit. Donc ça aussi, c'est les spécificités qui vont faire qu'il va falloir s'adapter à cette partie des épreuves. Donc par exemple, essayer de rouler la nuit, d'abord pour prendre l'habitude d'utiliser son matériel la nuit, d'utiliser son éclairage, de tester l'éclairage, de prendre l'habitude de circuler avec le risque des animaux qui peuvent traverser, des voitures, le manque d'éclairage, c'est peu sécurisant la nuit. Et puis en dehors de l'aspect de la nuit, il y a également la météo. Quand on est en montagne, il faut pouvoir résister au froid, il faut pouvoir s'adapter au chaud. Donc tout ça, ça va être des conditions qu'il vaut mieux essayer de connaître avant la course. Voilà, déjà pour le principal.
Voilà pour le préambule. Donc du coup, ça veut dire faire des séances longues. Parce que bon, on en a parlé tout à l'heure, mais on a parlé du fameux triangle, le fameux triangle infernal distance, durée, dénivelé. Parce que faire, comme tu l'as dit, faire 200 km chez moi à Chartres ou faire 200 km chez toi au-dessus de Grenoble, eh ben les prix, les kilomètres n'ont pas le même prix, n'ont pas la même valeur. Donc ça va être bien plus difficile. Et faire 200 bornes chez moi, ça va être beaucoup moins efficace. Et également miser non seulement aller chercher du dénivelé, mais également aller chercher de la durée pour aller chercher les fameuses sensations d'épuisement, de douleur et d'épuisement des réserves énergétiques dont tu parlais tout à l'heure, pour savoir simplement pour les vivre avant et ne pas être surpris. Tu parlais des coureurs qui vont avoir des sensations en course, qui vont être capables de rouler 120, 140, 160 km à très très vive allure. Mais à un moment donné, sur une épreuve ultra, ils vont arriver sur des sensations qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais expérimentées. Et non seulement dans les jambes, ça va être très très dur, dans les épaules, dans le dos, dans les fesses, tout ça, ça va être très dur, mais ça va être aussi très dur dans la tête, parce que d'une certaine manière, c'est tout leur monde et la construction mentale qu'ils ont du vélo et d'eux-mêmes qui va s'écrouler. Et d'un coup, ils vont se dire « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là que les problèmes arrivent. Alors que si on l'a expérimenté avant, on est bien plus tranquille parce que l'inconnu n'est plus inconnu quand on l'a vécu une fois. Donc c'est aussi important pour ça de faire des longues sorties et idéalement également de cumuler les jours et de découvrir un petit peu les joies du vélo fatigué en ayant déjà mal aux jambes, en ayant déjà mal au cul, en étant déjà largement entamé. Ça, c'est aussi ce qui est important. Et on en parlait avec Eric Lacroix récemment, c'est idéalement de s'organiser un petit bloc, même qu'une fois, ça peut suffire, un petit bloc de 2-3 jours où on va faire peut-être 120, 150, 200 tous les jours, mais au moins on va expérimenter des sensations différentes, un peu comme les produits laitiers. Et pour justement anticiper, donc évidemment physiquement ça va avoir un impact sur l'endurance, mais ça va avoir un impact aussi sur le mental et la manière avec laquelle on va appréhender toutes ces nouvelles sensations. Voilà. Et sur l'entraînement en côte et en col pour des parcours dénivelés, on le voit à toutes les épreuves, des gars qui finissent avec des tendinites au bout du deuxième jour ou du troisième jour, c'est également important parce que si on ne roule qu'en plaine, les muscles et les tendons divers, notamment chevilles et genoux, ne vont pas être habitués à des tensions inhabituelles, spécialement avec la fatigue. Et c'est comme ça que les blessures arrivent. Donc, ne pas sous-estimer le travail, entre guillemets, en force. Travail en force ne signifie pas recherche de performance. Ça veut dire surtout résister aux tensions et aux pressions qui vont être exercées sur les muscles pendant la course. Surtout si on a oublié de rouler avec les sacoches chargées. Ça aussi, on pourra en parler tout à l'heure. Hein, Laurent ?
Voilà. C'est vrai. C'est
donc
vrai.
Rouler avec les sacoches chargées, écoute, ça arrache
la gueule. Moi justement, j'essaie de rouler.
Ouais, vas-y.
C'est ça, c'est des conditions complètement différentes que celles du coureur avec un vélo de 8 kg qui n'a pas de bagagerie et qui n'a pas de poids additionnel. En général, sur un biking man, on part avec un vélo qui va faire entre 15 et 20 kg pour les plus lourds. Et donc évidemment, les sensations sont totalement différentes que celles d'un vélo à 8 kg où on a juste une chambre à air de rechange et deux démons de pneus. C'est évidemment des choses différentes. En plus, on rajoute les lumières, on va rajouter la bouffe, les vêtements de rechange, éventuellement même un cuissard de rechange ou pas mal d'affaires. Donc, effectivement, les conditions sont très différentes. Je reviens aussi sur l'aspect de l'enchaînement des jours d'entraînement. C'est important aussi parce qu'un biking man qu'on va imaginer faire en 5 jours, il va falloir donc rouler à peu près 200 km par jour, et même si on dort quelques heures pendant la nuit, le lendemain, quand on repart après la première journée, c'est déjà beaucoup plus difficile que la veille. Et donc, il faut habituer le corps à éliminer les déchets et à retrouver un peu une phase de préparation normale juste avant le deuxième ou troisième jour. Et donc, pour ça, la meilleure solution, c'est effectivement à l'entraînement d'enchaîner les jours de manière à connaître un peu ses sensations, où par exemple on va faire une première séance de 100 ou 150 km le premier jour, et le deuxième repartir avec déjà un sentiment de fatigue qui est quand même déjà assez important pour s'habituer à ces sensations qui sont assez désagréables, hein, de repartir avec déjà un peu mal aux jambes, mal aux fesses, mal au dos, éventuellement des difficultés aussi sur les mains ou sur les pieds, parce que c'est un des aspects difficiles aussi de la pratique de ce sport, hein, les insensibilisations, les douleurs un peu partout sur le corps, et donc c'est important d'enchaîner les jours de préparation pour pouvoir connaître ses sensations et pas être tout le temps dans son meilleur état de forme quand on va s'entraîner.
Ouais, accepter et accueillir avec plaisir l'inconfort et les situations non parfaites, parce que quand on est coureur, je l'ai vécu et sûrement toi aussi pendant des années, on essaye d'aller s'entraîner quand on est en forme, on essaye d'avoir des conditions parfaites, d'avoir bien mangé avant, bien dormi. Et après, quand on passe à l'ultra, on doit découvrir que tout n'est pas parfait. Alors en plus, avec la vie d'adulte, c'est encore moins parfait parce qu'il faut jongler avec le travail et éventuellement la famille. Et du coup, les conditions parfaites n'existent plus. Il faut aller rouler. Tu vois, par exemple, cette nuit, ma fille m'a réveillé à 2h30 et j'ai dormi 4 heures. Donc, si je devais aller rouler aujourd'hui, je me dirais, ok, c'est pas parfait, mais j'y vais quand même. J'ajusterai, mais n'empêche que j'irai quand même. Et ça, les conditions imparfaites, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer, tout simplement. Je reviens sur mes petites notes. On peut revenir sur la notion du nombre de sorties par semaine également, parce que c'est aussi un truc à démystifier, entre guillemets, c'est le nombre de sorties qu'il faut faire. Est-ce qu'il vaut mieux rouler 5 heures le dimanche ? Ou au contraire, essayer de rouler un petit peu, même une heure ou deux dans la semaine, deux fois une heure dans la semaine, plutôt que seulement 5 heures le dimanche.
On fait un sport d'endurance et on fait un sport où le corps doit s'adapter. Donc évidemment, plus on roule et plus le corps va s'adapter à cet effort. Donc il vaut évidemment mieux faire 5 fois 1 heure qu'une fois 5 heures le dimanche. Après, on a dit qu'il fallait aussi faire des longues sorties. Donc dans l'idéal, il faut faire des petites sorties en semaine ou une grande sortie le week-end. Ou alors inversement, faire une grande sortie le dimanche et puis enchaîner après les autres jours de la semaine avec des petites sorties, de manière à connaître cette fatigue après une grosse sortie et puis enchaîner sur des sorties plus petites ou plus rapides. Mais en tout cas, la répétition, c'est sans aucun doute la meilleure façon de se préparer. D'ailleurs, si on regarde dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, les sportifs d'endurance, ils s'entraînent tous les jours, que ce soit les nageurs, les cyclistes, les coureurs à pied, voire même parfois 2 fois par jour. C'est pas quelque chose de rare du tout, parce que le corps doit devenir une machine et doit être habitué à fournir des efforts réguliers. Je me souviens à une époque, quand j'allais sur les Coupes du Monde de VTT, j'avais rencontré Miguel Martinez, qui était à l'époque un des meilleurs vététistes français. Et non seulement il roulait tous les jours, mais en plus il allait à l'hôtel en vélo, il revenait sur la course en vélo. Enfin vraiment, le vélo était son moyen de déplacement quotidien. Il enchaînait les entraînements en permanence avec son vélo. Et j'ai évidemment aucun doute sur le fait qu'en ultracyclisme ou en bikepacking, la répétition des séances d'entraînement est évidemment un secret. D'ailleurs, on le voit bien, puisque on voit beaucoup de gens qui travaillent dans le vélo. Alors, ils peuvent être livreurs en vélo ou messenger. Et ces gens-là, quand ils se mettent à l'ultracyclisme, ils sont tout de suite très bons, parce qu'ils sont habitués à enchaîner les efforts. Ils roulent 50, 60, 70 km par jour. Le week-end, parfois, ils vont nous refaire une petite sortie de vélo parce qu'ils n'ont pas roulé assez longtemps pendant la semaine. Et on voit très bien que ces gens-là, malgré tout, ils sont vraiment faits pour ce sport parce que le corps est habitué à fournir ce type d'effort. Après, ils peuvent être un petit peu bridés, un petit peu fatigués. C'est la difficulté pour eux, c'est d'arriver à récupérer parce que pour le coup, ils roulent vraiment tous les jours. Et donc ça peut induire une fatigue qui n'est pas négligeable et qui est difficile à réparer. Il faut trouver des moments de récupération. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute que dans notre sport, la répétition des efforts est importante. Et aujourd'hui, les meilleurs dans la discipline s'entraînent absolument tous les jours. Ils vont faire parfois des stages d'une semaine, voire plus. Sofiane Seyli, par exemple, il part à l'aventure pendant plusieurs semaines pour préparer ses grands rendez-vous, et de manière à habituer le corps à l'effort.
J'ajouterais que il y a 2 ans, j'avais fait un épisode avec David Schuster après sa 2e place sur la Transcontinental Race. Il m'avait expliqué que lui, il vélo taf, et comme beaucoup, il vélo taf, comme toi d'ailleurs, et que là, tu parlais de l'entraînement quotidien des messengers ou des athlètes de haut niveau. Ne pas sous-estimer également l'importance et l'utilité du vélo taf. Et David a préparé la Transcontinentale essentiellement en vélo taf, en mettant à profit ses trajets quotidiens de 25 ou 30 km entre son domicile et son travail, et également en ajoutant ponctuellement une sortie longue le week-end ou un bloc de temps en temps. Mais la base de sa préparation était faite essentiellement en vélo taf. Donc ça, c'est un truc à ne pas sous-estimer.
Je crois qu'on est nombreux à faire comme ça. On est nombreux à faire comme ça. Moi aussi, je roule quasiment tous les jours pour aller au boulot et pour revenir en vélo. Si ce n'est que moi, j'habite sur le plateau du Vercors, et donc depuis Grenoble, j'ai à peu près 800 mètres de dénivelé quotidien. Ça me permet de m'adapter à la montagne. Alors que j'ai pas un gabarit de grimpeur, j'ai quand même maintenant une façon de pédaler qui est adaptée aux côtes et à la montagne. Tu as eu il y a pas très longtemps Clément Clisson, qui est dans la même logique. Hein, il s'entraîne quasiment tous les jours en allant en vélo taf. Donc aujourd'hui, oui, c'est devenu un élément indispensable de rouler régulièrement. Et si tu as une vie professionnelle un peu active, tu n'as pas le choix que de faire du vélo taf, parce qu'évidemment, si tu fais tes déplacements en voiture ou en transport collectif, c'est difficile le soir d'arriver à placer des séances d'entraînement de façon systématique.
Ouais. Bon, maintenant, on a la chance aussi d'avoir les home trainers connectés, parce que le home trainer avant, c'était quand même une grosse galère, que ce soit les rouleaux, les machins triangulaires, c'était vraiment nul. Mais maintenant, avec les home trainers connectés, on a cette chance, qui est une chance, mais qui est aussi un danger, qui a aussi le danger de se cramer la tête sur Zwift et de trop faire la course et de plus tenir sur son vélo. Il y a aussi ce danger-là, notamment quand on envisage du tout-terrain, parce qu'on va perdre les repères du caillou, tout simplement. On va perdre la sensation du caillou et de la boue, donc c'est à utiliser avec, avec parcimonie. T'as dit un truc intéressant et je voulais rebondir là-dessus, c'est de s'habituer à la montagne. Et tout à l'heure, on parlait du poids à transporter avec les sacoches et du coup, l'importance d'avoir des braquets adaptés. Parce que si on n'a pas le braquet adapté avec des sacoches en côte, on va pousser exagérément et on va s'épuiser prématurément, que ce soit musculairement ou au niveau tendineux, on va se cramer. Donc, c'est aussi important d'avoir, pour bien aborder les difficultés en dénivelé, d'avoir un braquet extrêmement adapté et de réguler son allure en côte ou en col.
C'est ça. Alors, en fait, l'idée, ça part du fait qu'on est un sport d'endurance et que donc, idéalement, si on veut durer, si on veut pouvoir finir une course de 1000 km, il faut qu'on soit cardiaquement en endurance. L'avantage, c'est qu'on va générer peu de déchets quand on est en endurance. Alors, pour simplifier, si on doit simplifier un peu qu'est-ce que c'est l'endurance, on va prendre une base théorique de quelqu'un qui a 20 ans, on sait 220 qui est le maximum théorique de battement cardiaque, moins 20, ça fait 200 de battement théorique maximum pour un individu de 20 ans. Et si on veut être en endurance, il faut être en gros entre 60 et 70% des battements cardiaques maximum, donc on va être entre 120 et 140 pulsations. Idéalement, donc, si on veut aller le plus loin et le plus facilement possible en ultracyclisme, il faut que cardiaquement, on soit positionné entre 120 et 140 pulsations. Je mets ça sous réserve, qu'il faut évidemment le tester de façon individuelle, puisqu'il y a des grosses différences génétiques entre les individus, et que ce que je dis là, c'est purement de la théorie, mais ça peut très bien être entre 100 et 120 pour quelqu'un de plus âgé. Et puis parfois, il y a des gens qui ne vont pas monter à 200 en battement cardiaque maximum et qui seront seulement à 180. Donc, il y aura des variations individuelles. Ce qui nous amène à dire que pour le tester, il faut éventuellement faire un électrocardiogramme auprès d'un médecin du sport ou alors utiliser un cardiofréquencemètre pour pouvoir avoir cette base de données. On pourra y revenir un petit peu plus tard éventuellement sur l'aspect matériel. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'il faut rouler entre 120 et 140 de battement cardiaque, en gros, si on doit simplifier. Et qu'en montagne, c'est difficile. Souvent, les gens qui viennent de la plaine, ils ont des facilités à rouler entre 120 et 140, à un rythme très régulier, c'est très aisé. Par contre, en montagne, j'ai constaté que beaucoup de débutants étaient en fait beaucoup plus haut que ces limites-là, qu'ils étaient plutôt en résistance. Et la problématique de rouler en résistance, c'est dans un premier temps qu'ils vont consommer beaucoup d'énergie, qu'ils vont user cette énergie et qu'au bout de 3 à 4 heures, il n'y aura plus de glycogène disponible, et que du coup, ils vont avoir un petit coup de bambou assez rapidement. L'autre risque, c'est de se mettre, de maintenir ce rythme trop élevé à longue échéance, et là, on en revient aussi aux 200 km, ou aux 10 heures d'effort, ou après avoir tenu un rythme aussi élevé aussi longtemps, eh ben, on va à la cata, où les gars peuvent plus avancer, ils sont complètement cramés au bout de 10 heures, parce qu'ils avaient un rythme cardiaque trop élevé. Et donc, pour maintenir un rythme cardiaque faible, quand on est en montagne, il faut d'une part avoir l'habitude de l'avoir testé avant, parce que si on n'a pas fait d'entraînement en montagne, on va être pas capable de voir qu'on est en sur-régime. Et il faut aussi avoir donc des braquets adaptés, parce que si on arrive avec les braquettes pleines, on va être obligé de forcer trop, et donc du coup, le rythme cardiaque va s'envoler et limiter les chances d'aller au bout. Donc pour ça, il faut tester et ne pas avoir honte de passer sur un tout petit braquet, de manière à rouler vraiment tranquille, à pas consommer trop d'énergie, à pas se faire trop mal aussi musculairement et à être dans des conditions de confort, si on peut dire, même quand on grimpe un col pendant une heure ou une heure et demie.
Le truc, c'est que quand on met un tout petit braquet et qu'on monte pas vite, il suffit de calculer. Si tu montes à 10 à l'heure et que le col fait 30 km, tu sais que tu en as pour 3 heures. Donc des fois, ça peut être un petit peu long et un peu frustrant. Une petite c'est précision. Ça. Quand on n'a pas de cardiofréquencemètre,
le moyen parfois difficile et en particulier pour les coureurs.
Ouais. Quand on n'a pas de cardiofréquencemètre, le moyen de vérifier que l'on est en endurance, c'est la capacité. Ça, c'est un truc d'ancien. On l'apprend depuis qu'on est tout petit. C'est la capacité à pouvoir parler et soutenir une conversation aisément sur le vélo. Si on te pose une question et c'est que ça. Tu réponds, ouais, ça va, tranquille, je suis en endurance. Eh ben non, en fait, ça va pas. Donc, tu dois pouvoir répondre facilement et avec une impression de facilité et même limite la bouche fermée ou la bouche entrouverte. Ça, c'est vraiment agréable. Et également au niveau de la pression musculaire, ne pas sentir que les muscles qu'on pousse se contractent, notamment sur la phase haute, et avoir l'impression de ne pas appuyer sur les pédales. Donc, vraiment ne pas les sentir Et là, on sait qu'on est vraiment en endurance, tout simplement. Et également, tu parlais de glycogène, il faut être précis jusqu'au bout. Le corps fonctionne avec trois carburants. Pour les efforts intensifs et extrêmement courts, ça s'appelle l'ATP, donc ça permet des efforts de type sprint. Pour des efforts, disons, d'intensité soutenue, par exemple seuil, aux alentours de 75-80%, donc ça va être le glycogène, les fameuses pâtes qu'on mange la veille de course, et pour recharger un petit peu tout ça. Et en dessous de cette intensité, aux alentours de 60 et en dessous, le gras, tout simplement. Donc en plus, plus on va être en dessous, plus on va être en endurance, plus on va épargner le glycogène que l'on va pouvoir utiliser sur des moments un petit peu plus soutenus. Mais globalement, plus on va être en endurance, plus également on va taper dans la graisse. Et plus on l'aura fait à l'entraînement, plus le corps sera apte à aller chercher ce carburant. Et ça peut surprendre parce que là, bah, si on est habitué à toujours tourner en glycogène, eh ben, on a des sensations de force, on peut rouler vite et tout, c'est bien. Mais quand on passe en lipolyse, donc sur la graisse, eh ben, ça fait un peu diesel quand même. On sent que ça avance, mais on ne peut pas forcément mettre la giclette que l'on a habituellement. Donc ça, pareil, ce sont des sensations à découvrir et à expérimenter à l'entraînement. Voilà, ça c'était le point physiologie. Et bientôt, nous allons aborder donc le point philosophie. Parce que, non, je t'avais prévenu tout à l'heure que j'allais la sortir, celle-là. Là, globalement, on dit que bah, voilà, faut faire du vélo. Et récemment, donc hier soir, je suis tombé sur une citation du philosophe Alain qui disait que bah, pour faire un beau plan, un beau pot de jardinage, un beau pot avec des belles fleurs, et bah, il faut commencer par faire un pot, tout simplement. Donc pour faire une belle course d'ultra-endurance, et ben, à vélo, il faut commencer par faire du vélo, tout simplement. Ça reste bête comme conseil, mais c'est malgré tout la base. En faire, j'allais dire, pas le plus possible, parce que c'est aussi, ça peut être aussi un danger. Mais en tout cas, rouler le plus régulièrement possible et se ménager des phases de repos. Voilà. Donc, sujet suivant. Avant cela, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Non, écoute, rien de spécial. Je crois qu'on a dit l'essentiel pour les débutants, en tout cas.
Voilà. Donc maintenant, on va aborder la question cruciale. Alors, je pourrais toujours parler de l'ancrage. Mais ça, on en a déjà parlé, régularité et ancrage. Donc, la régularité, c'est ce qui permet de développer et de consolider des qualités. Et l'ancrage, c'est ce qui permet vraiment de les consolider et à la fois physiquement et mentalement pour connaître ces sensations. La question qu'on te pose également régulièrement, c'est par exemple, quelle sortie la plus longue pour faire un 500 km ? Et là-dessus, tu as une théorie.
Ouais, alors la théorie de base, c'est justement de revenir un peu à ces 10 heures d'effort, 8-10 heures. Pour moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on découvre notre discipline. Avant 8 heures, c'est pas de l'ultra, c'est du vélo, c'est du cyclotourisme, c'est éventuellement du cyclisme si on le fait à un rythme plus élevé, mais c'est pas encore de l'ultra. À partir de 10 heures, on commence justement à être dans de la plus longue distance et on commence à découvrir les spécificités de notre sport. Et puis si on doit donner aussi un ordre d'idée, c'est à peu près la moitié de la distance qu'on veut faire en course. Donc sur un 500 km, il faut être à peu près habitué à faire 250, il faut connaître les sensations qu'on aura au bout de 250 km. Tout ça à pondérer en fonction du dénivelé, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment plus dur de faire 250 en montagne que de faire 250 sur le plat. Et puis pour un 300 km, ben on va dire que c'est à peu près 150 km qu'il faut faire. Si vous voulez vous lancer dans la Race Cross France 300, bah, il faut être capable de faire à peu près 150 km tout seul pour commencer à avoir une bonne approche de la distance.
Bah, c'est plus, entre guillemets, plus on va aborder des distances raisonnables, comme 300 km, plus ça va être facile de déroger un peu à la règle de la moitié. Donc pour un 300 km, 150 c'est bien, mais c'est aussi mieux quasiment de pousser à 200-220. Parce qu'en plus après, moralement, on peut se dire bon bah...
C'est mieux.
Ok, j'ai fait 200-220. Si on raisonne un tout petit peu, il reste 80 km, même à 20 de moyenne, c'est 4 heures. On mange, on se repose un instant, on se délasse un instant. Et puis c'est reparti et on patiente pendant 4 heures. Pour un 1000 km, ça va être un petit peu plus difficile. Il va aussi y avoir, comme on disait tout à l'heure, l'accumulation des jours.
C'est ça, ouais. Idéalement,
je te laisse la parole.
200 km, c'est pas
là,
mal.
Je te laisse la parole.
Et d'ailleurs, ouais. Idéalement, c'est pas mal de commencer à 200 km. On peut aussi prendre comme exemple ce qui se fait sur la préparation de Paris-Brest-Paris, où on a les brevets de préparation qui font 200, 300, 600, voire 1000 km, 400, 600 et 1000 km de préparation. C'est une montée en régime qui est assez régulière et qui permet d'atteindre l'objectif de faire 1200 km. Si on voulait se lancer dans les meilleures conditions pour faire une race cross France ou pour faire un biking man, on peut suivre à peu près cette logique qui serait de dire bah, mon premier mois d'activité, je vais mettre en fin de mois un 200 km, le deuxième, je vais mettre un 300 ou un 400, et puis je me mets encore un 600. Bon, globalement, même si on veut faire une race cross France de 2500 km, ce n'est pas la peine d'aller au-delà du 600. Après, on connaît déjà un peu les sensations liées à l'ultracyclisme, mais faire cette montée en régime avec des distances de plus en plus importantes, c'est la meilleure solution pour se préparer. Si vous voulez faire de l'ultra, vous vous inscrivez à des BRM, qui sont les brevets de randonneurs mondiaux ou les brevets ODAX, qui sont organisés par la FF Vélo, anciennement la FFCT, et vous aurez une montée en régime qui sera parfaitement adaptée à la préparation d'un ultra. On n'a rien inventé dans le bikepacking, hein, les cyclotouristes font ça depuis des décennies, et ça marche très bien pour aller sur une épreuve de longue distance.
Ouais, on avait déjà eu ce débat avec notamment Stéphane Gibon qui bosse à la FF Vélo et qui est délégué au développement de la longue distance, également avec Elisabeth Lavaille, et on était tombé d'accord que aller sur des BRM, c'est vraiment l'arme ultime lorsque l'on débute ou que l'on manque de repères. Donc se rapprocher d'un club cyclo, alors vu comme ça, je suis complètement d'accord, ça fait pas rêver parce qu'on va être entouré d'anciens. Avec le poil aux pattes, les genoux écartés, les garde-boue et tout. Mais n'empêche que les vieux, ils savent faire. On peut se moquer, je les ai beaucoup côtoyés plus jeunes. Et n'empêche que les vieux, ils savent faire. Donc, quand on manque un petit peu de repères, au lieu d'aller se cramer les ailes et aller glaner des informations parfois contradictoires sur les groupes Facebook, le meilleur réflexe que l'on puisse avoir, c'est d'aller se rapprocher de ces groupes cyclos, de ces vieux cyclos. Et comme on dit, vous apprendrez le métier. Et avec eux, vous risquerez rien et vous serez quasiment sûr d'arriver en un seul morceau, hyper satisfait, comme je disais tout à l'heure, et relativement frais. Parce que comme tu disais, on n'a rien inventé. Et donc le père de tout ça, dont le nom complet m'échappe, mais qui était surnommé Vélocio, un de ses préceptes, c'était d'arriver frais, donc pas totalement défoncé. Ça, c'est important. Bon, mon petit Laurent.
Jean de Vivi, je crois.
Ouais, exactement. Exactement. Comment tu dis Jean ? Jean de Vivi ? De Vivier ? Bon, je laisserai...
Jean de Vivi, il me semble. Jean... Je ne suis pas sûr à 100%.
Ouais. Bon, je laisserai les spécialistes historiques m'écrire et je laisserai Stéphane Gibon m'envoyer un mail incendiaire. Comme ça, ça lui donnera l'occasion. Il en meurt d'envie, j'en suis sûr. en plus, depuis qu'il sait qu'il bosse avec mon voisin, donc tout va bien. Il ne le savait pas, maintenant il le sait. Maintenant, on va parler du matériel, de l'équipement et surtout de l'appréhension pour dormir dehors. Parce qu'une des appréhensions et une des difficultés, c'est dormir dehors, ou en tout cas, tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est rouler la nuit, mais le vrai problème, c'est dormir dehors quand on ne l'a jamais fait. Là, je te laisse la parole.
Voilà, donc il y a deux niveaux qui sont un peu inquiétants pour les débutants. Donc dans un premier temps, rouler la nuit, parce que les sensations ne sont pas les mêmes, parce qu'il faut avoir un petit peu de matériel spécifique, il faut se couvrir en général un peu plus, il faut là encore être un peu plus chargé quand on va rouler la nuit. Quand je parle de charge, je parle de matériel dans les sacoches. Et puis après, il y a l'aspect effectivement dormir, où pour certaines personnes, c'est particulièrement inquiétant de se décider à dormir dehors. Alors, il faut aussi préciser qu'on n'est pas forcé de dormir dehors quand on fait de l'ultra. Il y a beaucoup de débutants qui, dans un premier temps, la nuit, vont dormir à l'hôtel, sur une race cross France ou un biking man. Je pense qu'il y a une bonne proportion des partants qui, finalement, dorment à l'hôtel dans des bonnes conditions. Et c'est sans aucun doute aussi la meilleure préparation possible pour son premier ultra, de commencer à dormir à l'hôtel pour passer une nuit plutôt confortable et en sécurité. Après, on a beaucoup de jeunes, maintenant, qui débutent en ultra, et certains ont envie, pour des raisons parfois budgétaires, de moyens, et pour des questions d'aventure, de dormir dehors. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'il faut absolument préparer, parce que si on s'imagine après avoir fait 3 mois de vélo, que dès la première nuit, on va pouvoir prendre son sac de couchage et dormir dehors dans des bonnes conditions, on risque d'être quand même dans la difficulté. Parce que dormir dehors, dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans des conditions météo qui sont difficiles, avec du matériel qu'on n'a pas forcément testé à l'avance, ce n'est pas facile du tout. Et si c'est pour se coucher et finalement pas dormir, ou dormir de façon pas confortable, et donc pas bien récupérer, ça vaut pas le coup, il vaut mieux pas tenter la chose sans l'avoir testé avant. Donc plusieurs choses à tester, le matériel, donc ça peut être sac de couchage, ça peut être hamac, ça peut être matelas, il y a plein de possibilités, certains même dorment sous la tente dans les raids très très longs, et ça peut être simplement avoir un matériel très chaud et un petit bivy pour faire un petit coup de sommeil rapide. Mais moi, mon meilleur conseil pour un débutant, ce serait quand même idéalement d'aller à l'hôtel, de dormir vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir bien récupérer et repartir au top.
Bah, comme tu dis, ouais, on voit beaucoup qui veulent vivre la grande aventure, si on peut dire, et faire comme les meilleurs, dormir dehors et tout. Mais quand on ne l'a jamais fait, ça peut être intimidant. Il y a les bruits, il y a le froid, il y a l'inconfort. Et comme tu l'as dit, si c'est pour ne pas dormir ou très très mal dormir et repartir complètement décalqué, eh ben, vaut mieux quand même jouer la sécurité et dormir à l'hôtel. On est bien mieux. Éventuellement, on aura même un repas chaud, on pourra prendre une douche, se soigner un petit peu s'il y a besoin et repartir de plein pied pour un premier truc, mais pas mettre la barre trop. Arriver au bout d'une épreuve ultra, c'est déjà fabuleux. Et après, mettre petite brique après brique, de remettre de la difficulté, mais reporter quand même certaines difficultés un petit peu dans le temps d'accumuler un petit peu d'expérience quand même.
C'est ça. Alors si on doit dormir à l'hôtel, de ce que je remarque pour les débutants, il n'y a pas besoin de dormir une nuit complète de 6 heures. Il y a beaucoup de débutants qui vont dormir 3-4 heures à l'hôtel, mais qui privilégient ce mode de récupération pour prendre une douche, pour pouvoir éventuellement changer d'affaires, se faire un petit massage. Et 3-4 heures déjà dans de bonnes conditions, ça permet de bien se régénérer. Après, il y a une solution un peu intermédiaire, qui est de pas dormir à l'hôtel, mais de dormir à l'abri dans des bonnes conditions. Donc en ultra, on utilise souvent les sas de banque, ou bien parfois les laveries automatiques qui peuvent être ouvertes la nuit, qui peuvent être éclairées, ça c'est pas toujours un avantage, mais en tout cas, c'est plus sécurisant de dormir dans un lieu comme un sas de banque ou une laverie automatique que de dormir complètement dehors en pleine nature. Et puis ça peut se faire progressivement, on peut commencer par dormir à l'hôtel, prendre l'habitude, ensuite quand on maîtrise un peu le roulage de nuit, ben, on va aller dormir dans une laverie, un sas, pour essayer, voir dans quelles conditions on arrive à récupérer, c'est déjà le premier step un peu plus sécurisant, et puis après carrément tenter dehors, alors ça peut être un abribus dans des conditions un petit peu moins confort, ça peut être un préau, une salle municipale, enfin voilà, il y a plein, après il faut trouver l'endroit dans lequel on va pouvoir récupérer dans de bonnes conditions et adapter son matériel à la façon dont on va dormir. Mais pour un débutant, il y a aussi cette phase progressive qui permet de passer de l'hôtel à un abri et puis ensuite éventuellement aller en pleine nature. Mais l'objectif, c'est avant tout bien récupérer, parce que si c'est pour s'arrêter, récupérer et peu récupérer, être dans de mauvaises conditions, ça vaut pas le coup. Et là encore, les meilleurs, eux, quand on parle de récupération, on n'est pas dans le même optique. Ceux qui vont être devant, qui vont vouloir faire un chrono, leur objectif, c'est simplement d'enlever la souffrance liée au manque de sommeil, en fait. Donc c'est souvent des arrêts très courts qui vont permettre simplement de repartir en n'ayant pas l'envie de dormir, mais on s'arrête pas suffisamment pour vraiment récupérer beaucoup musculairement. Mais là, on est dans un autre objectif et une autre optique de la pratique du bikepacking.
Sur le lieu, alors dans l'hypothèse où on dort dehors, j'avais fait un épisode avec Rémi Lequin qui m'avait raconté sa première French Divide et lui, il avait fonctionné de la manière que tu as décrite, où en fait les premières nuits, il n'était pas du tout sûr de son coup, donc il s'était tapé hôtel et progressivement, eh ben, il est allé dormir dehors et également par son expérience, il l'avait remarqué, ne surtout pas dormir en bas. Plutôt choisir un lieu en hauteur parce que le matin, bah, là, il y a de la rosée, il y a éventuellement de la brume et c'est comme ça qu'on se réveille éventuellement tout trempé avec tout le bazar trempé et remballer le paquetage humide, bah, c'est pas très agréable et se réveiller trempé dans le sac de couchage ou le bivy, c'est pas forcément une super idée non plus. Donc, elle également choisir avec soin le lieu de l'arrêt et toujours plus ou moins en hauteur pour éviter la rosée matinale. Ça, c'est le petit point météo.
Oui, alors ça dépend aussi ce que tu appelles hauteur, parce que je ne conseille pas de dormir en haut du col de l'Isran. Hein, les conditions ne seront pas idéales non plus.
Ouais.
Donc, il y a effectivement la hauteur où il faut... Moi, je dirais plutôt qu'il faut éviter les vallées. En fait,
oui, voilà.
Pour nous
voilà.
qui vivons en montagne,
c'est plus précis,
ça ne nous vient pas à l'idée de dormir près de la rivière. Voilà. En vallée, on n'y dort pas parce que c'est trop humide et qu'effectivement, il peut y avoir la gelée du matin ou l'humidité qui va être trop importante avec la rosée. Donc, on peut très bien effectivement être complètement trempé quand on va se réveiller. Mais il ne faut pas non plus dormir en hauteur parce que à chaque 300 mètres de hauteur, on a quand même un degré de moins en termes de température. Donc, il faut trouver aussi un endroit qui sera quand même pas trop haut. Et puis, il y a l'aspect vent aussi. Il faut essayer d'éviter les endroits où il y aura un petit peu trop de vent. Il vaut mieux essayer de dormir à l'abri. Et puis, trouver un sol qui soit un peu confortable si vous n'avez pas un équipement qui est pléthorique. Hein. Si vous avez, comme moi, pour dormir juste ça, hein, un bivy, c'est tout ce que j'emmène avec moi, il vaut mieux prévoir un sol un petit peu souple et pas forcément dormir sur un sol en béton parce que sinon, ce n'est pas hyper confortable. Donc voilà, tout ça, c'est... Il faut le tester, il faut arriver progressivement à cette phase où on trouve des endroits pour dormir en sécurité. Et puis, en termes de sécurité, alors il y a deux stratégies. Là, je n'ai pas la réponse, je ne vais pas pouvoir dire ce qui est le mieux. Il y a certaines personnes qui vont vouloir dormir plutôt isolées, dans le noir, sans qu'on les voit. Ils se sentent plus en sécurité quand on ne les voit pas. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent dormir en pleine lumière, par exemple dans un abribus qui va être éclairé, en pleine ville. Parce qu'en termes de sécurité, ils se sentent plus à l'aise avec des gens qui passent et des gens aux alentours. Bon, moi, je choisis plutôt la version non visible et plutôt tranquille en général, mais ça, c'est un peu en fonction du caractère de chacun.
Maintenant, on va parler de l'alimentation, parce que comme on l'a dit en préambule, toi, tu as un mode alimentaire qui est plus que particulier dans la mesure où tu ne te nourris que de gel, donc tu emmènes ton sac à dos de gel et tu bouffes que ça pendant 2 jours. Comment s'alimentent les... Pas tout à fait ? Vas-y, dis.
Ouais, alors pas tout à fait, ça c'est un peu la légende. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, sur certaines courses, je n'emporte que du gel. Mais en général, c'est les courses où je suis à l'étranger et où je ne connais pas le moyen de s'alimenter. En fait, j'ai testé ça à Oman, sur le premier Biking Man auquel j'ai participé. J'étais jamais allé à Oman et je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'alimenter sur place. Et de ce que j'ai vu, les seuls moyens de s'alimenter, c'est soit des petites supérettes, mais qui sont fermées la nuit, et on est en plein désert, donc il n'y en a pas beaucoup, soit des stations-service, mais qui étaient également fermées la nuit. Et donc, dans mon idée, comme je savais que la course allait durer à peu près 48 heures, je me suis dit, pour ne pas prendre de risque et de me trouver en hypoglycémie pendant une nuit, parce que quand vous avez tous les magasins qui sont fermés, quand même, la nuit, elle peut durer 10-12 heures, donc ça fait beaucoup, si vous ne pouvez pas vous ravitailler. Donc moi, mon idée, c'était d'emporter de quoi survivre pendant 48 heures, avec toute la nourriture sur moi. Donc effectivement, j'ai choisi que du gel pour d'autres raisons, parce que c'est facile à digérer, parce que ça mobilise peu d'énergie pendant la durée de digestion, parce qu'aussi je m'étais entraîné à m'alimenter qu'avec ce mode d'alimentation très particulier, et que je savais que je le digérais bien, que j'avais plusieurs arômes différents qui permettaient de ne pas avoir de saturation, et également que j'avais des gels salés, de manière à varier entre le sucré et salé, puisque c'est un peu difficile de toujours avaler du sucré sur une longue distance. Mais c'était vraiment dans l'optique d'être autonome. Maintenant, quand je fais un biking man en France, dans une région que je connais, où c'est plus facile de se ravitailler, et où on va passer par des villes dans lesquelles il pourra y avoir probablement des endroits pour se ravitailler, je ne prends pas que du gel. J'en emmène tout le temps avec moi pour avoir une certaine période d'autonomie, mais je peux très bien m'arrêter à une boulangerie pour acheter des pâtisseries ou pour acheter quelque chose rapidement. Mais moi, je suis dans cette démarche aussi de ne pas perdre de temps en ravitaillement. Je m'arrête le moins possible, donc il faut que ce soit rapide. Donc là aussi, j'emmène beaucoup de nourriture sur moi de manière à ce que si je ne trouve pas de magasin ouvert ou très facilement accessible, eh ben je zappe et je continue ma route jusqu'à trouver un endroit plus facile d'accès. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est vraiment dans l'optique compétition, dans l'optique performance. Mais je le conseille absolument pas à des débutants parce que manger que des gels pendant 48 heures, c'est extrêmement difficile pour le corps.
Par contre, il y a un truc que tu as dit, c'est c'est de ne pas mobiliser trop de ressources digestives. Donc, un des trucs qui font un petit peu partie du folklore du bikepacking, comme casser la boulangerie ou dévaliser la boulangerie, c'est d'être en hypo, de s'arrêter, de manger comme un goré et finalement, après, d'avoir un petit peu des troubles digestifs qui vont être en plus amplifiés s'il fait chaud. Donc, après, on va repartir parce que bon, bah, la digestion, c'est simplement un amas de sang qui va brasser tout ça. Et bah, si le sang est mobilisé à digérer une pizza ou une quiche ou n'importe quoi, et bah, c'est autant de sang qui ne va pas aller dans les muscles et qui va permettre un fonctionnement fluide. Donc, c'est aussi quelque chose à ne pas oublier. C'est bah, le poids de la digestion dans le confort qu'on a à faire du vélo et dans le confort digestif, le confort également de, bah, de ballonnement. Et encore une fois, ouais, quand il fait chaud, c'est infernal, quoi.
C'est ça. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la logique. La logique voudrait que, comme pour l'entraînement, on s'alimente de façon très régulière et de façon modérée. Mais ça, c'est la logique et c'est pas toujours facile à respecter. Après, moi aussi, je suis comme tous les coureurs ultra. À un moment, on a envie de se faire un hamburger, une pizza, quelque chose de gustativement plus agréable, quitte à minimiser un peu la performance et à être sans doute un peu moins performant que si on avait fait le métier. Mais sur les biking man, en général, je vois quand même des gens qui ont envie de s'arrêter de temps en temps pour se faire un bon resto et se manger un truc sympathique. Ouais. Là encore, si on doit s'arrêter plutôt aux débutants, je pense pas qu'un débutant qui va faire la course pour aller au bout, qui va bien être en endurance, qui va pas se faire trop mal, qui va pas aller dans des pulsations cardiaques ouais. élevées, qui va prendre le temps de s'arrêter à l'hôtel le soir, je pense que pour lui, il peut se faire un petit resto, il peut se faire un burger, il peut se faire, voilà, ça posera pas de problème particulier ouais. parce qu'il prend des phases de récupération et parce qu'il aura le temps de digérer pendant sa nuit, par exemple. Si ça va en burger avant 4 heures de nuit à l'hôtel, je pense pas que ça posera beaucoup de difficultés. Encore une fois, ouais. c'est pas pareil de vouloir faire une performance et effectivement, on va essayer de pas trop charger l'organisme et puis de le faire dans un objectif d'aller au bout et de se faire plaisir. Ou là, un bon resto, franchement, j'y vois rien de négatif. Hein.
Et en plus, ça va renforcer une belle expérience parce que si tu vas dans une région ou dans un pays un peu exotique, et ben c'est toujours agréable de manger la cuisine locale et ça ramène que de bons souvenirs. Et tu peux en profiter pour envoyer une carte postale à ta grand-mère. Elle appréciera.
C'est ça. Bah ouais, bah. Alors la chose à prendre en compte aussi, justement, puisqu'on parle des spécialités locales, c'est qu'en fonction des régions dans lesquelles on est, d'une part, on n'a pas forcément... accès à des commerces qui permettent de trouver à manger. Par exemple, les boulangeries qui sont assez célèbres parmi les bikepackers, on les trouve essentiellement en France. C'est difficile quand on est à l'étranger de trouver beaucoup de boulangeries. Hein. Au Portugal, par exemple, il n'y a pas de boulangerie. Vous trouvez des cafés dans lesquels vous allez pouvoir prendre quelques pâtisseries, mais il n'y a pas de vraie boulangerie, en tout cas dans la zone qu'on a faite nous, dans l'Algarve et dans les petites villes, c'est absolument impossible à trouver. Je ne parle pas encore à Oman, c'est encore pire, parce qu'à Oman, on ne trouve que des petites épiceries et des stations-service sur le parcours du biking man, et c'est absolument impossible de trouver une boulangerie. Donc il faut aussi s'adapter aux conditions locales pour trouver de l'alimentation. Ça fait partie du jeu. Après, quand on s'arrête dans les restos, là par contre, effectivement, on peut bénéficier de la nourriture locale, et c'est plutôt sympa. Et ça rentre un peu dans l'univers biking man. L'univers biking man, c'est aussi c'est une aventure sportive, c'est un effort qui est difficile, mais c'est aussi le plaisir de se retrouver pour se faire un bon resto, manger les spécialités locales et profiter un peu de l'endroit où on est, de la particularité de l'endroit où on a cet effort. Ça fait partie aussi du plaisir. Et les gens qui viennent sur ce type d'épreuve, en général, ils viennent aussi pour découvrir des paysages, découvrir une région, découvrir des peuples qu'ils ne connaissent pas forcément et profiter de tout ça.
Bah, c'est vraiment le plaisir du voyage au sens large, hein. C'est de ramener un petit peu de soi et de découvrir c'est de ramener un petit truc avec soi et de découvrir une autre manière de manger, une autre manière de vivre, une autre manière de penser. Et c'est ça qui est intéressant. Ça a peut-être été synthétisé dans l'esprit entre guillemets biking man, mais ça reste quand même l'essence du voyage, c'est de entre guillemets, comme j'aime bien dire de manière provocante, rentrer un petit peu moins con qu'on est parti. Et c'est ça vraiment l'intérêt du voyage. Du coup, autre question qu'on te pose souvent, gravel ou vélo de route, monoplateau ou double plateau? Allez, c'est parti pour le quart d'heure rigolade.
Ouais, alors c'est une question vraiment difficile, hein, ça. Hein. Là encore, bon, bah, ça dépend de l'expérience de chacun. C'est-à-dire que moi, je viens du cyclisme et je fais du cyclisme depuis longtemps et je suis toujours pas passé au gravel, ni même au monoplateau. Parce que j'ai besoin d'avoir des vitesses, enfin des transmissions qui sont habituelles pour moi, des développements habituels. Et passer sur du monoplateau, dans l'immédiat, c'est exclu. Même en VTT, aujourd'hui, je suis toujours en triple plateau et je n'ose pas passer au monoplateau parce que j'ai trop peur d'avoir un pédalage qui serait un petit peu différent de celui que je connais. D'ailleurs, mon VTT, il n'est pas très loin, il est juste derrière, là. Ouais, c'est un 26 pouces avec triple plateau, hein, donc voilà, j'en suis encore à la vieille école.
Rassure-moi, on va faire une parenthèse, mais c'est pas ça que tu vas emmener à l'Atlas Mountain Race quand même?
Si, c'est ça que je vais emmener à l'Atlas Mountain Race, si, si.
D'accord, alors je vais envoyer un mail à Nelson, faut absolument pas qu'il t'autorise à prendre le départ, tu vas jamais arriver au bout. Mais ça, on en parlera après du... Ah. Non, je rigole évidemment, hein. Mais on en parlera un petit peu du pédalage, parce que... Mais je te laisse poursuivre, on finira après, vas-y.
Ouais, alors, donc, sur un... Bon, toujours, si on reste sur un Biking Man... ça va dépendre un peu du parcours, là encore. Gravel ou vélo de route. Si on est sur un parcours comme au Portugal, où il y a 99% de revêtement bitume, c'est pas nécessaire d'aller sur du gravel. Je pense qu'un vélo de route avec du pneu en 28, c'est d'ailleurs ce qui est conseillé par Axel Carion dans les préparations du Biking Man, ça suffit amplement. Par contre, si on est à Oman, avec le Jebel Shams à grimper, avec toute la descente qui est en gravel, avec des passages à 20-22% de descente, c'est franchement plus sécurisant d'avoir du pneu un peu plus épais, avec un petit peu de crampons, et un vélo de façon globale qui va être plus costaud. On se sent sans doute plus en sécurité. Donc j'ai tendance à dire que c'est pas trop le fait de dire gravel ou vélo de route, mais que quand on va avoir du parcours un petit peu difficile avec une part de gravel importante, ce sera sans doute plus sécurisant d'avoir du gros pneu et un vélo un peu renforcé, un peu costaud. Voilà, moi, c'est surtout ça l'important. Après, le monoplateau, je pense que les gens qui sont habitués à faire du vélo de route et qui viennent du cyclisme, ça va être compliqué de passer sur du monoplateau. Qu'un débutant essaye et passe directement sur un monoplateau pour débuter, ça pose pas de souci. De toute façon, c'est pas monoplateau ou double plateau qui va changer grand-chose dans l'optique de finir la course. Ça va peut-être changer dans l'optique de faire un temps, d'aller chercher un chrono et d'optimiser la performance. Mais la part matérielle dans la capacité à finir une épreuve de longue distance, elle est quand même pas très importante. C'est avant tout le bonhomme qui est sur le vélo qui va faire la différence et probablement pas le vélo. J'aurais un gravel ou j'ai mon vélo de course, ça changerait pas grand chose au niveau de la capacité à aller au bout d'une épreuve. Ce qui va être important, c'est l'alimentation, c'est la préparation, éventuellement la part mentale, mais sans doute pas beaucoup le vélo. En revanche, ce qui est important, c'est la position sur le vélo. Être bien sur son vélo, être confortable, avoir un matériel qui est fiabilisé, ça c'est essentiel par contre, parce que pour aller au bout, il ne faut pas avoir de problème mécanique, et il ne faut pas avoir de problème biomécanique sur son corps. Il faut éviter les tendinites, il ne faut pas trop avoir mal aux fesses, il faut avoir un dos qui n'est pas en mauvais état. Et tout ça, la part matérielle, là, elle va être, pour ça, la part matérielle va être importante. Mais pas le fait d'avoir un gravel ou un vélo de route, le fait d'être bien positionné, d'être habitué à son vélo.
La part mentale pour toi, elle en est où?
Alors ça, c'est un peu une catastrophe pour moi. Mes proches disent que j'ai un mental qui est plutôt très faible. Alors je sais pas qu'en penser. Écoute, moi, en tout cas, je travaille pas le mental. Pour moi, c'est pas quelque chose d'important. Je sais que j'ai beaucoup de collègues ultra cyclistes qui ne jurent que par ça. Mais pour moi, je préfère me dire que j'ai un corps qui est habitué à faire de l'effort et que physiquement je suis au top, et je me dis que normalement le mental devrait suivre. Si je devais donner un conseil à un débutant ou à mon meilleur ami ou à quelqu'un de ma famille, je lui dirais avant tout de travailler son physique plutôt que de travailler le mental. Je pense que quand tu es très fort physiquement, que tu roules tous les jours dans toutes les conditions, et que en quelque sorte ta vie est rythmée par la préparation d'un ultra, je pense que de toute façon, mentalement, tu peux pas être très fragile. Parce que l'accumulation d'entraînement au fil du temps, au fil des années, au fil des mois, de toute façon, ça te renforce dans le fait que tu es pas un débutant et que tu vas pouvoir aller au bout d'une épreuve. Mais après, voilà, si certains peuvent être rassurés en faisant un travail mental et en travaillant cet aspect de diverses façons, bah pourquoi pas, si ça peut les rassurer. Mais moi, c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose d'essentiel.
Ouais, vaut mieux quand même rouler régulièrement dans des conditions variées, des conditions faciles, difficiles, et multiplier les expériences. C'est comme ça qu'on acquiert la confiance, parce qu'on parle du mental. C'est quand même une notion assez vague des fois, et finalement on peut rapprocher ça à la simple notion d'avoir confiance en soi et en ses capacités, et en sa capacité à prendre la bonne décision au bon moment. Mais quand on est bien préparé physiquement, bah globalement déjà la tête va beaucoup mieux. Et si on a la tête mais pas les jambes, bon, ça va pas aller beaucoup plus vite. À un moment donné, les jambes vont arrêter. Éventuellement, c'est le mental. Et là, pour ça, je vous renvoie à tous les épisodes avec le Brognard, et notamment savoir pourquoi vous êtes là. Et être là pour une bonne raison, le faire pour une bonne raison qui vous est chère, et pas simplement pour amuser la galerie et mettre des photos sur Insta. Parce que ça, c'est certain qu'au premier coup, c'est l'abandon assuré. Mais si vous le faites avec une bonne raison, avec une motivation suffisamment solide, il n'y a pas de raison, quoi. Mais avant tout, il faut des jambes. Pour faire un beau pot, eh ben, il faut commencer par faire un pot. Voilà. On pourra la garder, celle-là. Bon, c'est Laurent, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ?
Je pense que...
Alors, on pourrait parler des prolongateurs. Alors, on a parlé vite fait du capteur de fréquence cardiaque. On pourrait aussi parler du capteur de puissance. Mais bon, c'est tellement anecdotique. À ma connaissance, il n'y a que Ulrich Bartholomès qui en utilise un, qui a en plus les yeux rivés dessus pendant les épreuves, mais ça me paraît anecdotique. Par contre, la question du prolongateur, ça anime les débats éventuellement.
Oui, alors je reviens juste sur le cardiofréquencemètre quelques secondes. Moi, je pense effectivement que pour un débutant, c'est essentiel de manière à pouvoir caler son rythme cardiaque dans les premiers entraînements et puis ensuite sur éventuellement le début de la course pour être sûr d'être à un rythme pas trop élevé. Moi-même, j'utilise le cardiofréquencemètre de manière à, en début de saison, à pas commencer un entraînement d'endurance qui serait trop intensif, trop difficile, et pas être au-dessus de l'endurance, en fait. Et puis, ça peut avoir donc un intérêt en début de course pour pas se sentir euphorique, parce que souvent, quand on part sur une épreuve Biking Man, ou Race Across France, Born to Ride, etc., il y a un petit effet d'euphorie. On est content parce qu'on est ensemble, qu'on a attendu ce moment pendant très longtemps, et on a tendance à partir en sur-régime. Et là, le cardio-fréquence-mètre peut être effectivement très, très important. Le capteur de puissance, moi, je ne l'utilise pas. Je pense sans doute que c'est un plus, hein. Indéniablement. Ça ne peut pas faire de mal que d'avoir un outil qui est encore plus précis que le cardio-fréquence-mètre et qui va permettre d'avoir des données encore plus fiables. Oui. Parce que parfois, le rythme cardiaque peut être insuffisant pour trouver son rythme. Mais c'est vrai que c'est pas encore très répandu, et en tout cas pour un débutant, ça n'a pas tout de suite d'intérêt. Je pense que le capteur de puissance sera plus intéressant pour quelqu'un qui veut après progresser en termes d'entraînement, être plus efficace, voire faire la course à l'avant.
Ouais, comme tu l'as dit, c'est
pour ce qui concerne donc le prolongateur.
Ouais, juste pour compléter sur le cardio, c'est bien aussi de découvrir les sensations d'endurance, comme on a dit. Donc le souffle ou la pression musculaire. Pour le capteur de puissance, c'est, comme tu l'as dit, c'est bien pour ceux qui veulent prendre des risques. Tu l'as dit en introduction, à l'avant de la course, vous prenez des risques. Et c'est bien, tu vois, on voit Ulrich, il est toujours à la limite. Et justement, pour un débutant, il faut être bien en dessous de la limite. Donc, aucun intérêt. Voilà, prolongateur.
Voilà. Alors, prolongateur, c'est un vaste débat aussi. Moi, je commencerai déjà par une première chose, c'est que rouler avec un prolongateur, c'est pas comme rouler sans prolongateur, ça c'était facile à dire, mais c'est surtout que la position sur le vélo sera pas la même si on a un prolongateur ou si on n'en a pas. Parce que si on a une position habituelle sur le vélo et que du jour au lendemain on rajoute un prolongateur, si on se contente de s'avancer sur le guidon alors que le réglage de la selle n'a pas été modifié, on sera sans doute dans une position qui ne sera pas confortable et qui ne sera pas durable. Donc utiliser un prolongateur, pour moi, c'est indispensable de modifier la position. Et en particulier, moi je viens du triathlon, et en triathlon, quand on utilise un prolongateur, on a une position qui est beaucoup plus avancée sur le vélo que quand on n'en utilise pas. Avec l'objectif de ne pas être cassé en deux sur le vélo, d'autant plus en ultracyclisme, où on va avoir besoin de confort et on va être obligé de rouler pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Si on utilise une position trop allongée, bah, ce sera très très compliqué en termes de confort et de douleur dorsale. Donc pour moi, ça implique forcément une modification de la position si on doit utiliser un prolongateur. Ensuite, quel est l'avantage d'utiliser le prolongateur ? Souvent, le premier bénéfice qui est cité, c'est celui de l'aérodynamisme. Pour moi, ce n'est pas essentiel, parce que quand on fait un biking man, même si on fait le biking man devant, dans les premiers, on va rouler en général entre 20 et 25 km/h. Le gain aérodynamique à 20 à 25 km/h avec un guidon profilé, il n'est quand même pas énorme, d'autant plus quand on se balade avec un vélo qui fait 15 kg, avec des sacoches, avec des bidons partout, avec éventuellement un sac à dos. Moi, je dirais que l'avantage principal du guidon, du prolongateur, ça va être de pouvoir varier les positions des mains sur le vélo. Ce qui est difficile sans prolongateur, c'est qu'on va avoir les mains qui vont être positionnées soit sur les coups de côte, soit sur le bas du guidon pendant très longtemps, et que beaucoup de coureurs souffrent d'engourdissement au niveau des mains, la sensation d'avoir des fourmis, voire parfois d'insensibilisation. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, on peut carrément avoir des doigts qui sont insensibilisés, et c'est d'une part assez désagréable pendant la durée de la course, mais aussi ça peut durer parfois pendant plusieurs mois. Et donc l'intérêt du guidon de triathlon, c'est justement de pouvoir varier les positions et de moins avoir ce risque d'engourdissement. Une autre solution aussi pour limiter ces risques, ça va être de mettre une guidoline un peu plus épaisse, voire de doubler la guidoline pour avoir un meilleur amorti et avoir une sensation un peu plus de confort au niveau des mains. Et donc en général, le guidon, le prolongateur va être utilisé sur les épreuves qui sont un petit peu roulantes, un petit peu plus plates. Et parfois, certains utilisateurs vont l'enlever pour les parcours un petit peu plus montagneux, quand vraiment il n'y a que de la montagne, que des montées et des descentes. Dans ce cas-là, effectivement, il y a moins de moments où on peut utiliser le prolongateur. Et dans ce cas-là, il n'est pas forcément nécessaire. Donc les épreuves très montagneuses, parfois, il y en a un peu moins. Mais pour moi, dès qu'il y a des portions de 50 km qui vont être sur du plat, il faut utiliser ce type de guidon pour pouvoir varier les positions et avoir un petit peu de confort au niveau des mains.
Attends, je finis juste un message. Je t'écoutais en même temps, mais j'avais un truc à midi. Donc je termine juste. Voilà. Nicolas, si tu m'écoutes, tu sauras que je vais t'envoyer un SMS. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est, considérant tout ce que tu viens de dire, notamment ta position sur le vélo, ta position très particulière que j'ai vue au mois de mai dernier, je l'ai aperçu rapidement quand tu t'es écarté et que j'ai pu voir ton VTT derrière, j'ai pu constater que tu as une position très similaire. Comment tu vas t'adapter pour l'Atlas Mountain Race, sachant que ça va être un vélo que tu as peut-être moins l'habitude d'utiliser, un terrain peut-être que tu connais moins, parce qu'en plus tu sortiras, même tu seras encore en plein hiver en Isère. Avec une variété de positions moins vaste, comment tu vas te préparer justement à affronter l'Atlas avec un vélo que tu connais moins, dans des conditions que tu connais moins?
Alors, là je suis en plein dedans, justement je suis en pleine phase de préparation. Donc la première règle, c'est que depuis déjà 3 semaines, je ne touche plus au vélo de route, je fais tous mes entraînements avec le VTT pour m'habituer à la position, qui n'est pas encore peaufiné, mais c'est en cours, quoi. Sortie après sortie, j'essaie de l'améliorer. La deuxième chose, c'est que je vais utiliser un prolongateur. Pour moi, c'est impossible de faire du vélo longue distance sans prolongateur. De toute façon, j'en suis plus capable. Donc, je vais essayer peu ou prou de retrouver ma position du vélo de route sur le VTT. Et puis, en termes de stratégie, de toute façon, je pense que j'aurai une bonne autonomie en termes alimentaires, hein. Je vais repartir avec pas mal de gel sur moi. Donc, par exemple, j'ai des petites recharges comme ça de gel que je vais transporter avec moi. Ça correspond à 20 ou 30 gels dans une petite recharge comme ça, et j'en aurai probablement deux sur moi en permanence. enfin en tout cas au départ de la course.
Oui.
Après, pour ce qui est de la chaleur, parce qu'effectivement, ça va être un petit peu particulier. Hein, chez moi, là, on commence à être en plein hiver. Hein, il y a beaucoup de températures négatives. Et à l'Atlas, il est possible qu'il fasse un petit peu plus chaud, même si je pense qu'on n'aura pas des températures caniculaires. Mais il y a 2 ans, quand j'avais préparé Oman, en fait, je m'habituais à rouler suréquipé, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup d'habillement pour vraiment suer, avoir une sensation de chaleur importante quand je roulais. Et donc là, c'est un peu la même stratégie. Je me couvre beaucoup pour habituer le corps à avoir chaud. C'est évidemment pas les mêmes conditions que le chaud sec qu'on peut trouver à l'étranger. Hein. Ça reste du chaud humide et une sensation différente, mais malgré tout, je pense que le corps peut s'habituer. Je suis pas trop sensible aux écarts de température. En fait, en montagne, j'ai la chance de vivre dans une région qui à la fois est très froide l'hiver, mais aussi très chaude l'été. Hein. Grenoble, c'est une ville où on est souvent à 40 degrés l'été. Donc j'ai peu de difficultés à m'habituer aux températures extrêmes. Je pense pas que ça posera trop de problèmes. D'autant plus qu'à l'Atlas Mountain Race, on est donc dans l'Atlas, donc en montagne. On monte jusqu'à 2600 mètres. Donc, de ce que j'ai vu de la dernière vidéo de l'AMR qui avait eu lieu il y a 2 ans, les températures n'étaient pas si chaudes et au contraire, ils ont même eu froid parfois. Donc, ça ne devrait pas trop poser de soucis.
Ouais. Concernant l'eau, parce que ton vélo, il est même n'importe quel VTT, de toute façon, n'importe quel VTT n'est pas adapté encore à un usage bikepacking en termes de fixations diverses, notamment sur les fourches télescopiques. Comment tu vas t'organiser pour emmener suffisamment d'eau, notamment sur ce passage de 100 km dans la caillasse où il n'y a pas de ravitaillement et qui a fait mal à pas mal de monde il y a 2 ans? Là, j'ai peut-être bien perdu Laurent. Non.
Ouais, j'ai vu ça, oui. Non, ouais. Je suis toujours là. Moi, je t'entends en tout cas. Donc, je vais changer un peu la stratégie, puisque évidemment, en vélo de route, j'ai 2 bidons de 1 litre. Donc, je pars avec 2 litres sur les Biking Man ou sur les Race Across France. Là, je vais partir en fait avec au moins une poche de Camelback remplie qui sera sur ma sacoche centrale, donc la sacoche de cadre. Donc, c'est celle qu'on voit là derrière. Voilà. Donc, j'aurai au moins cette sacoche qui sera remplie avec un Camelback, enfin une poche à eau. Donc elle fera 2 litres. Et puis je vais aussi transporter avec moi un sac à dos dans lequel je mettrai de la nourriture. Alors un sac à dos très léger qui sera facile à remettre en poche une fois qu'il sera vide. Donc un sac très léger dans lequel éventuellement je glisserai des petites flasques d'Ultra Trail qui sont très légères et faciles à transporter. Pareil, ça prend pas de place quand c'est vide. Voilà, donc je vais compléter avec ça. Pas de bidon, porte-bidon, parce que mon cadre n'est pas fait pour ça. Je ne peux pas mettre à la fois les bidons et la sacoche centrale. Et puis j'aurai en plus, sur la tige de selle arrière, une sacoche pour transporter les vêtements. Donc dans la poche centrale, je mets la boisson, le matériel de réparation. Dans la sacoche arrière, je mets les vêtements de rechange, et il vaut mieux en prévoir, parce qu'il peut faire froid.
Ouais.
Et puis un petit sac à dos pour la bouffe, et une deuxième réserve d'eau.
Ouais, donc l'épisode avec Clément Clisson, on commençait à parler d'utiliser les flasques ou les vessies d'Ultra Trail. Ça y est, t'as passé le cap, toi.
Ouais, alors moi, j'avais déjà passé le cap, en fait. Je l'ai là, ouais, j'ai ça là. En fait, à Oman, voilà, j'utilisais ce genre de choses. Donc c'est vraiment un vêtement qui se rajoute sur le maillot de vélo, avec des poches un peu partout pour mettre des flasques, et dans lequel je peux mettre tous mes gels. Et en fait, juste là-dedans, c'est quelque chose qui pèse 60 grammes, qui se replie très facilement pour mettre dans une poche, et je mettais à l'époque 40 gels qui étaient dans les poches tout autour du corps, assez répartis, de manière à ce que ça ne fasse pas des points de pression trop importants. Voilà, donc ça, c'est l'idéal en termes de contenant, sans être trop lourd, et en étant facile à ranger quand on n'a pas l'utilité, parce que c'est ça aussi l'intérêt, si tu dois transporter un sac à dos rigide pendant 1200 bornes, et qui ne te sert que la moitié du temps, finalement, c'est quand même dommage. Donc ça se replie très facilement et ça se range sans aucun problème.
Quand c'est chargé, ça ne te fait pas une pression?
J'avais utilisé ça à Oman, et bon, ça avait très bien fonctionné, depuis je l'utilise.
Quand c'est chargé à fond, ça ne te fait pas une pression trop importante sur les fesses en t'appuyant, finalement, en te mettant du poids en plus, et en appuyant sur les fesses sur la selle, tu souffres pas de ça ou au contraire ça...
Non,
ça
parce qu'en... Non, en fait, c'est placé beaucoup plus haut. C'est pas du tout au niveau de la selle. C'est au-dessus des poches du maillot de vélo. C'est-à-dire que si j'utilise mon maillot de vélo, j'ai les poches que je peux remplir. Et en fait, l'outil est au-dessus. Donc, c'est carrément dans le dos, voire un peu devant, puisque les flasques, je peux les positionner devant. Là, par contre, ça peut être gênant quand elles sont devant. Voilà. Devant, ça peut être gênant quand je suis en position aéro. Parce que là, pour le coup, j'ai parfois les cuisses qui vont venir taper dans les flasques. Donc, ça demande une petite adaptation quand elles sont pleines. Mais en général, quand je pars en course, je commence par vider les flasques de manière à retrouver une position confortable. Et ensuite, je m'occupe soit des bidons sur route, soit de la poche centrale à l'arrière progressivement.
D'accord. Est-ce que tu peux me donner la marque de ce petit gilet ? C'est intéressant.
Oui, c'est Compressport.
D'accord.
Voilà, Compressport.
Ok.
C'est assez connu chez les trailers. Hein, c'est...
Ah bah oui, carrément.
Ouais. Et en plus, il y a différentes tailles. C'est ça aussi qui est bien. C'est que il y a SML, XL. Enfin, il y a différentes tailles qui permettent d'adapter au gabarit. Parce que moi, j'en ai deux, en fait, parce que je fais pas le même poids entre l'hiver et l'été. J'ai des grosses variations. Et donc, celui que j'utilise l'été en course, bah, je suis incapable de le mettre pendant l'hiver parce que j'ai repris un peu de poids. Et donc, il m'en faut deux.
D'accord. Donc, l'Atlas Mountain Race, ça va être tu vas arriver en phase post-raclette ou tu vas être en pleine époque raclette ?
Alors, écoute, j'essaie de limiter ma prise de poids, mais c'est vraiment difficile, j'ai du mal. Donc, je serai en post-raclette, mais...
Mais pas depuis longtemps.
J'espère quand même un peu en forme, j'espère. Ouais. Non, pas depuis longtemps, non. Bah non, entre Noël et la course débute le 3 ou le 4, ça fait pas beaucoup de temps, il reste qu'un mois, donc c'est pas suffisant pour faire un régime et maigrir. Donc, je vais pas faire de régime, je partirai sans doute un peu plus lourd que sur les épreuves routes. Bon, de toute façon, j'y vais pas pour faire vraiment une place et pour être devant. J'ai trop de lacunes en termes techniques en VTT pour espérer être devant. J'y vais comme séance d'entraînement pour commencer à préparer la saison de route, mais j'y vais pas avec l'objectif de me faire trop mal. Et puis, je suis en plus un peu inquiet au niveau du sommeil depuis cette année, qui a pas été facile en termes de gestion de sommeil sur les épreuves ultra. Donc j'y vais aussi pour peut-être faire un entraînement au sommeil, voire tester quelques petites choses pour essayer de préparer la saison. Mais je ne vais pas prendre de risque à essayer de suivre Sofiane ou des garçons qui sont bien plus forts que moi, à la fois sur ce terrain technique et en même temps sur la gestion du sommeil.
Ok. Bah, écoute Laurent, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je préfère te voir en vrai parce qu'on rigole encore plus. Mais déjà à distance, c'est pas si mal et j'espère qu'on se reverra en vrai bientôt. Donc,
bien sûr.
Je te laisse finir. Écoute, moi, je vais couper mon micro et je te laisse terminer. Quand t'as fini, tu ne fermes pas la fenêtre, d'accord ? Tu laisses tout comme ça, tu vas faire pipi, okay, tu fais ce que tu veux.
Ça marche.
Mais tu ne fermes pas, d'accord ? Je m'occupe de tout. Ça roule ? À bientôt. Merci Laurent.
Ouais, ok. Parfait, on fait comme ça. À bientôt. Salut Richard. Bon, écoutez, c'était intéressant en tout cas de pouvoir donner des conseils aux débutants. Je terminerai peut-être par une petite chose qu'on n'a pas dit avec Richard pendant la présentation. C'est en termes de vêtements, en termes d'accessoires textiles. Une des choses importantes en ultra aussi, c'est l'effet de différentes couches de vêtements qui est assez importante. Quand il peut faire froid, quand il peut faire chaud, quand on est dans des conditions climatiques difficiles. C'est important de jouer les trois couches, ou en tout cas deux couches de vêtements, de manière à emprisonner de l'air entre les différents vêtements. Donc en général, on a un t-shirt qui peut être assez respirant et assez léger, éventuellement un maillot cycliste tout à fait traditionnel, et ensuite soit un coupe-vent, soit un imperméable, en fonction des conditions météorologiques, si vous prévoyez de rouler sous la pluie ou s'il n'y a pas de pluie prévue au programme. Et puis pareil au niveau des mains ou au niveau des pieds. C'est important aussi de prévoir différentes couches pour pouvoir vous protéger de la pluie ou du vent, de manière à emprisonner un peu d'air et essayer de limiter la perte de calories du corps. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous préparez votre habillement, d'autant plus que le principe des couches, c'est d'avoir des vêtements qui sont plutôt légers en général. C'est parfois mieux que d'avoir un très gros vêtement très chaud qui va vous prendre beaucoup de place quand vous n'en aurez pas besoin et qui rentrera mal dans vos sacoches. C'est préférable d'en avoir plusieurs petits qui vont pouvoir accumuler et avec lesquels vous allez pouvoir vous déshabiller quand vous aurez un peu trop chaud ou que vous n'aurez pas l'utilité de cela. Voilà, sinon on se retrouve sur le vélo un de ces jours. À la prochaine, bye.